Et c'est l'appel de François que je prends maintenant. Bonsoir François.
Oui, bonsoir Sabine.
Bienvenue à vous.
Je vous remercie beaucoup de me prendre, enfin de me prendre à l'antenne. J'expose ma problématique. Attendez, je coupe complètement la radio parce que.
S'il vous plaît, ce sera plus facile, oui.
Voilà.
On vous entend.
En plus, je m'entends. Ouais, je m'entends des coups. Donc voilà, j'expose un peu ce qui m'arrive. Ma mère va mourir. Par ailleurs, ma sœur a disparu, de la circulation. Je suis tout seul à soutenir ma maman dans la compagnie dans l'au-delà.
Qu'est-ce qu'elle a, votre maman ? Qu'est-ce qui lui arrive ?
Métastase dans les os. Fêlure du fémur. Et donc, elle est alitée 24 heures sur 24. Voilà.
Quand vous dites votre sœur a disparu, c'est depuis ça ou c'était déjà avant ?
C'était déjà avant, quelques mois avant.
D'accord. Ouais.
Je crois qu'elle avait, prémédité son coup. Je ne sais pas si c'est le mot. Mais à demi-mot, elle m'avait laissé entendre que quand il était question de la ramener dans ma ville en EHPAD, elle me disait je sais pas si je viendrais souvent. J'avais compris.
Pas envie d'assumer, quoi.
Ou envie d'assumer, de ne pas assumer. je pense que j'ai, par rapport à ça, j'ai pas trop moins de rancœur en tout cas qu'au début. Chacun est libre, voilà. Mais effectivement, moi, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi. Je pense qu'à deux, entre frères et sœurs. Mais j'avais pas trop de relations avec elle depuis plusieurs années. Et de toute façon, les relations étaient très, 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 très conflictuelles avec elle. C'est quelqu'un qui est très, très, très vindicatif. Et voilà. Comme c'est ma sœur aînée, elle a été aussi vindicative. Elle est un peu vindicative avec tout le monde et vindicative avec moi. Elle l'a été, en tout cas, dans mon enfance. J'ai entamé, parallèlement à ça, j'ai réentamé une thérapie. Et je me disais, d'ailleurs, il y a quelques semaines, quand je parlais avec des gens qui ont trouvé le bon thérapeute, et je me suis dit, enfin, j'ai trouvé un thérapeute qui n'est pas parfait, on est au moins sur la même longueur d'onde. Mmh. Alors, son obédience est un peu psychanalytique. Et puis, j'ai eu 3 séances avant le Covid. Et donc là, c'est vrai que je lui ai fait part par téléphone. Et le fait qu'il intervienne très peu, c'était quand même... ça me posait... quand ma maman, on m'a annoncé qu'elle était dans une clinique pour faire un espèce de bilan et savoir comme ça, je suis allé bien évidemment très 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 souvent la voir. Mmh. Et les premiers temps, je lui apportais à chaque fois de la paix et avec son état dissocié. Je la ramenais. Alors c'est vrai que moi je suis musicien et elle aime beaucoup la musique et ça me faisait vraiment un bien fou, quoi. C'est-à-dire que ça me faisait un bien fou. Enfin, voilà.
Vous sentiez que vous lui faisiez du bien.
Ouais. Et je me faisais du bien. Enfin, ça me. J'étais plus en sécurité affective. Enfin, ça, je voyais vraiment la différence. Allier ça avec la thérapie, Et alors, bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a eu deux dérapages dans mon adolescence avec moi, c'est-à-dire deux dérapages, je vais dire les mots que j'ai eus avec l'interrogateur que j'ai eu, c'est, je l'appellerais ça intrusion sensuelle, voilà. Alors, je pense que c'est pas de sa faute parce qu'elle avait une personnalité un petit peu instable et que parfois elle voilà, bon. Et Et même ça, ça avait, j'avais eu l'impression que par la paix que je lui apportais, par la sérénité que je lui apportais, ça avait moins d'impact sur moi, dans ma vie affective notamment. Enfin,
ça s'était un peu dissous alors.
Oui. Et puis là, dernièrement, mon instrument n'était pas, c'était pas possible que je lui joue de la musique. Et là, elle a basculé tout, complètement. C'est-à-dire que elle est aphasique aussi, donc elle avait du mal à prononcer les mots. Et la seule phrase qu'elle a prononcée, je ne voulais pas vous la dire mot à mot, mais en gros, c'est que j'étais son amant, quoi. Mais alors, bien sûr. Évidemment que je suis conscient du fait qu'elle est dans un état.
Oui, là, la souffrance, les médicaments et tout, mais ça n'explique pas tout.
Ça n'explique pas tout, ouais. Ben non, parce que elle a fait ça il y a 3 ans aussi. Elle a eu des gestes, enfin voilà. Et là, en plus mon thérapeute est parti en vacances et là je tombe et je sais pas où trouver les ressources en moi pour arrêter de chuter, quoi. Enfin, c'est comme si j'avais rien fait et même j'ai l'impression que je régresse totalement. Enfin, voilà la situation en gros. Je suis en chute là, je chute et je sais pas par où tout revient
Oui, bien sûr.
Oui, allez-y.
Je vais être claire, François, on va mettre des mots là-dessus parce que c'est comme si vous aviez essayé depuis toujours d'enterrer quelque chose qu'on ne peut pas enterrer. Et ça vous saute à la figure régulièrement.
Ben oui.
Comme une mine que vous n'avez jamais désamorcée.
Ben oui, mais parce que ça me rassure pas.
Ben oui et non. Enfin, on va mettre des mots très clairs là-dessus. Quel âge aviez-vous quand elle a eu un comportement inapproprié avec vous?
La première fois, c'était à 12 ans. Et la deuxième fois, c'était vers 14 ans et demi. Voilà. Et bon... J'ai pas envie de remuer trop.
J'ai été
violée à 9 ans aussi. Enfin, voilà.
Par qui?
Voilà. Par un inconnu. Ouais. Mais c'est pas mal quand on enterre, même si c'est momentané, on se dit que il y a des possibilités, quoi. Enfin, on a.
Sincèrement, je crois pas. Je crois pas. C'est comme marcher sur un champ de mine. On les voit plus, mais elles sont là.
En tout cas, partiellement. Enfin, enterré partiellement. Enfin, je veux dire.
Est-ce qu'à l'époque quelqu'un l'a su?
Ce qu'elle avait fait?
Oui.
Non. Alors, c'était une époque, enfin, c'est-à-dire que c'était une époque aussi où c'était dans les années 76, 78 à peu près, et c'était un peu l'après-coup de la libération sexuelle, et voilà, donc... Non, personne n'a su. Mais, enfin, moi, ce que vous avez l'air de dire, c'est que je peux rien y faire.
À l'inverse, c'est l'inverse que je suis en train de vous dire. C'est précisément l'inverse, c'est que jusqu'à maintenant, vous n'avez rien fait. Vous avez fait comme si c'était quelque chose. Là, vous cherchez même un début d'excuse en disant oui, c'était la suite de la libération sexuelle. Non.
Non.
Ce qu'elle a fait, fait pas. Ça n'est pas négociable.
Oui, tout à fait. Mais oui, pour l'excuser, elle. Oui, tout à fait.
Comment est-ce que vous avez l'air de dire qu'il y avait eu de nouveau des épisodes, on va regarder cette formulation, inappropriée plus tard, c'est-à-dire à quel moment de votre vie ça s'est manifesté à nouveau?
Eh bien, quand elle était en maison de retraite, il y a 3 ans, je suis venu à vélo la voir, vraiment, j'y pensais plus, quoi, et je me suis allongé sur le lit, à côté d'elle, parce que j'étais fatigué, et puis elle était fatiguée aussi. Évidemment, hein, c'est loin d'être en tout cas.
Mais non, mais comme un fils s'allonge à côté de sa maman, ça c'est pas.
Voilà, voilà. Et puis là, bon, elle a une main baladeuse, quoi. Enfin, voilà. Et je suis resté, j'ai pris un café après, et je suis resté pendant 1h30. J'étais hagard, quoi. Hagard. Voilà, mais vraiment, je veux. Enfin, j'ai rien fait. J'ai pris conscience. J'ai pris conscience qu'elle était, que c'était pas bien qu'elle avait fait, etc., etc. Mais j'ai fait. J'ai essayé de travailler ça en hypnose. J'ai cherché des thérapeutes. J'ai participé une fois à des groupes de parole. Entre parenthèses, il y avait que des femmes, et voilà. Donc j'ai essayé, en tout cas, j'ai essayé de toquer à des portes, en tout cas, voilà. Mais là, si vous voulez, le fait qu'il y ait, alors j'ai eu un épisode très dur, c'est quand elle était hospitalisée, je lui dis avec fermeté que mais ça avait l'air de marcher, enfin, qu'il fallait, voilà. C'était bon, enfin que voilà, parce qu'elle a culpabilisé, hein, en même temps elle culpabilise.
Ça veut dire que vous avez réussi à en parler avec elle?
Oui, tout à fait. Alors, parfois elle culpabilise, et parfois quand elle retombe dans son état dissocié, qui là pour le coup est physiologique, enfin je veux dire, elle est quand même. Elle a un problème, c'est Alzheimer associé, enfin c'est un truc, je sais pas bien. Je suis pas médecin, mais là. Et parfois, il y a une culpabilité immense. Et parfois, elle retombe. Voilà, je suis son amant. Enfin, et alors, ce qui est très curieux, c'est que quand elle s'en rend compte et quand je suis pas son amant, ça fait écho le témoignage précédent. Elle en a marre de vivre. Elle a envie de partir. Et là, quand elle m'a dit ça, là, il y a quelques jours, je lui dis je lui dis la vérité. Enfin, tu vas mourir, maman. Enfin, et je suis là pour toi. Et elle me dit, mais non, j'ai envie de vivre moi. Et enfin, on a l'impression que c'est moi qui suis, on a l'impression que c'est parce que je suis, qu'à ses yeux, j'ai cette posture d'amant, que c'est à cause de ça qu'elle a envie de vivre. Enfin,
c'est un peu délirant.
Ouais.
Entre vos 14 ans et il y a 3 ans, il ne s'est plus jamais rien passé?
Non.
Est-ce que vous avez construit une vie sentimentale, une vie amoureuse, une vie de papa?
Alors, écoutez, j'ai eu 2 longues histoires, mais il y a très longtemps. Mais qui n'était pas totalement épanouissante. Et là, ça fait un moment que je. Alors, j'ai eu les flashs aussi, hein, il y a 7 ans seulement, hein, de mon premier. Avec cet inconnu. Hein. Donc, je ne pouvais pas. Enfin, j'ai essayé une psychanalyse d'un an et demi. J'étais complètement. Sans dessous, et je pense que j'ai dit à mon fils, hein, je pense que la psychanalyse pure et dure pour ce genre de trauma, c'est pas idéal, mais voilà. Et on s'était mis d'accord pour qu'éventuellement je fasse un épisode d'hypnose ou de autre chose, voilà.
Et vous l'avez
fait? Pas encore. Ben, pas encore, parce que c'était le Covid. Enfin, moi, j'étais... Voilà. Et là, les hypnothérapeutes... voilà. Et puis, j'ai fait des tentatives d'hypnose, mais j'ai trouvé ça... Alors, j'ai eu une séance d'hypnose qui était assez très bonne, mais j'ai réitéré quelques mois plus tard, et la personne était beaucoup plus dans ses images, elle me mettait des images dans la tête, et enfin moi je pense que c'est l'hypnose conversationnelle, enfin c'est-à-dire que en fait on c'est comme en thérapie, sauf qu'on est en état d'hypnose, enfin c'est-à-dire que je parle et voilà, c'est complètement libre en fait, c'est
bah, ce surtout, qui me gênait, c'est... On ne met pas les images dans la tête de quelqu'un, on se sert des siennes pour l'aider à avancer.
Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Donc, voilà, j'ai...
Juste une chose, François, vous n'avez pas répondu complètement à ma question. Est-ce que vous avez eu des enfants ?
Non.
Pourquoi ? Non. Est-ce que vous croyez que ce qui s'est passé a influencé le
oui.
cours de...
Ah, oui, ben voilà. Évidemment.
C'est pas
notre... Non. J'en ai pas. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui avaient subi ce. Voilà, ils m'ont parlé. Et même une femme, parce que c'est rassurant quand une femme dit qu'elle a une sexualité déviante. Elle a, cette femme, d'ailleurs, c'était un amour de jeunesse, m'a dit on a été déviés de notre sexualité et donc on a une sexualité déviante, quoi, voilà. Donc effectivement, sur ce plan-là, c'est délicat. Mmh. Voilà. Donc, mais si vous voulez, alors j'imagine bien que vous n'êtes pas une fée. Enfin, quoique, on ne sait jamais.
J'aimerais tellement. Non, mais,
oui. Non, mais c'est-à-dire que je me dis là, je suis en train de chuter et peut-être que je, voilà, le but de mon appel, enfin, si vous avez des pistes, elles sont bienvenues, hein, elles sont bienvenues. Mais, déjà d'en parler, c'est déjà peut-être que ça va arrêter la chute.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, je suis en train de chuter ?
C'est-à-dire que
dans votre monde intérieur, qu'est-ce qui se passe ?
Ben, c'est-à-dire que j'ai l'impression de plus pouvoir. Avant, j'avais des désirs de relation quand même, et j'avais quand même d'espoir. Enfin, je me sentais quand même un minimum apte à avoir une relation, même physique. Et là, j'ai l'impression que si ça continue de chuter, je suis en train de me dire, mais je suis incapable. Je vais devenir incapable, quoi. Je suis incapable. Je serai incapable. Et c'est ça que j'aimerais quand même stopper, quoi. Même si c'est dans mon imaginaire, en tout cas, je me sentais il y avait une surface, il y avait un champ ouvert. Là, le champ, il est. Alors, je sais pas si ça a une relation avec ça, mais bizarrement, j'ai rencontré une jeune femme dans le train en allant voir ma maman. Et je vais pas en parler parce que c'est noyer le poisson, c'est peut-être.
Est-ce que vous avez l'impression de lui en vouloir à cette mère ou pas du tout ?
Mais en fait,
c'est ambivalent chez vous. Parce qu'il y a deux parties, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a deux parties en vous qui sont vraiment pas d'accord du tout.
Ben oui, parce que par ailleurs, elle a eu quand même son rôle de mère, elle l'a. Quoique, oui, c'était assez épars, hein, mais elle a quand même assumé quand même à certains niveaux, à certains certaines fois.
Elle n'a pas été que ça.
Oui, heureusement.
Vous ne parlez pas beaucoup de votre papa. Il était où dans l'histoire ?
Alors mon papa était complètement absent. Mon papa, mon papa était pas communicant, hein. Mais ma belle-mère et mes frères, ma belle-mère le disait aussi, hein, donc pas qu'avec moi. Et pendant ce temps-là, mon papa était, c'est-à-dire que je le voyais tous les 15 jours et que on allait au cinéma et après le cinéma, on se prenait un café et qu'il y avait beaucoup de silence, quoi. Je l'ai retrouvé un peu vers la fin, un petit peu plus tard, quand j'ai eu 36 ans. J'ai eu une vraie, enfin voilà, quand même une relation qui s'est authentifiée, si je puis dire. Oui. Et puis même, je lui dis ce que ma mère, vers la fin de ma vie, fin de sa vie, elle dit pardon. je lui dis ce qu'avait fait ma mère, voilà, voilà. Et il est mort il y a un an, voilà. Il est décédé il y a un an. Mm. Voilà. Alors j'ai choisi un homme, un thérapeute, consciemment j'ai choisi un homme, parce que il y avait ma grand-mère, il y avait plein de femmes, et voilà.
Il me semble que chez vous, François, c'est un travail de l'ordre du traumatisme qu'il faudrait mettre en place.
Oui, c'est un traumatisme parce que j'ai eu des flashs il y a 7 ans. Ouais. Et même avec ma psychanalyse de 7 ans avant les flashs à peu près, j'ai évoqué cet épisode du premier, de l'inconnu, qui a été plus traumatisant que les gestes. Qu'a eu ma mère, mais bien sûr, les gestes qu'a eu ma mère, s'il n'y avait pas eu le premier épisode, ça aurait eu quand même moins d'impact. Mais oui, j'ai reçu des flashs, donc j'ai bien écouté Nadia Salmona, ce qu'elle disait. Si vous voulez, il y a quelque chose dans la lucidité qui est presque. qui rend plus impuissant. Enfin, dans la compréhension de ce qu'est ce trauma, on se dit parfois je me dis mais c'est comme ça, donc j'y
alors oui, mais attention à ça, vous intellectualisez beaucoup.
Oui,
un traumatisme, on ne travaille pas en l'expliquant. On travaille sur les émotions qu'il faut libérer, qui sont restées coincées. Voilà. Il y a une partie de vous qui est restée coincée au moment où ces événements sont arrivés. Oui. Alors l'autre partie a beau analyser, disséquer, intellectualiser. Ça ne vous fera pas beaucoup avancer. Mmh. Et j'ai beaucoup entendu tout à l'heure, j'essaye, j'ai tenté, j'ai fait un peu. Mais est-ce que vraiment vous êtes allé au bout d'un travail sur ces traumatismes-là?
Écoutez, non, pour l'instant, sinon ça irait mieux. Je pense à l'hypnose, si vous voulez, mais là, dans ma ville, quand je regarde le bottin, il y a beaucoup d'hypnothérapeutes femmes, pas beaucoup d'hommes. D'ailleurs, je crois que c'est un thérapeute qui m'a dit ça aussi. Et c'est pour ça que, au préalable, j'avais choisi d'avoir un ancrage relationnel avec un thérapeute homme pour pouvoir aller vers des choses comme l'hypnose.
Est-ce que vous avez pensé à l'EMDR aussi, justement?
J'en ai fait.
Oui.
J'en ai fait, mais c'est pareil, c'était très protocolaire. Le fait de me demander alors de 1 à 10, pour moi c'est horrible. Enfin, cette question-là, alors de 1 à 10, vous le qualifierez comment, cet événement? J'ai pas envie de qualifier, j'ai pas envie de mettre des...
Alors, c'est pas l'événement qu'on qualifie normalement, c'est l'émotion qu'on quantifie.
Ouais.
Ça n'a rien à voir.
Ouais.
Il faut une échelle de valeur pour démarrer et savoir comment on évolue au fil de la séance, mais on ne qualifie pas, on quantifie.
D'accord. Mais là, c'était en fin de séance qu'il me demandait.
Et pas au début.
Au début, il me demandait et à la fin.
Faut qu'on parte d'un niveau pour savoir à quel niveau on arrive. C'est logique.
Mais moi, ce qui me semble comme spontanément, laisser infuser après la séance de l'MDR, et après la séance d'après, dire, bon, alors maintenant, de 1 à 10. Mais tout de suite après y avoir été, c'est too much, quoi. Enfin, c'est waouh, c'est...
Non, ça dépend comment le travail est fait, parce que ça peut aller très vite avec le MDR. Vraiment.
Ouais.
Moi, j'ai vu des résultats spectaculaires en une séance. Mais peu importe le moyen, mais il n'y a pas besoin d'être une fée, comme vous disiez, pour comprendre qu'il y a un vrai traumatisme. Plusieurs traumatismes associés. Il y a un autre traumatisme en réalité.
Oui.
Et qu'il faut vraiment arriver à vous libérer de ça, et que peut-être aussi que le départ de votre maman va être l'occasion de passer à autre chose, justement. De vous autoriser, vous, maintenant, à soigner tout ça.
Ben,
et à vivre des relations satisfaisantes pour vous.
Alors, je me dis, moi, qu'il faut que je le fasse avant, en tout cas. Enfin, il faut que je l'enclenche, en tout cas, avant.
Ouais.
Enfin, avant qu'elle parte, parce que... Voilà, parce que je pense qu'il y a... Il y a eu de la paix. Vraiment, j'étais bien. Hein. J'ai rencontré une femme dans le train. Ça passait de manière très fluide.
Mais
voilà. Mais alors, bah, après, j'étais très, très, très fatigué. Et je l'ai revue juste une fois. J'ai dormi chez elle. J'ai pas... moi, enfin, dans mon trauma... En fait, il faut m'assurer que je plais à la jeune femme, quoi, pour que j'essaie quelque chose. Et là, je lui dis, dès le début, je suis très, 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 très fatigué. J'ai dormi 4 heures et voilà, je me coucherai peut-être un peu tôt, etc. Donc, j'ai pas... Alors, mes copains me disent, mais quoi, t'aurais dû tenter, nanana, nanana. J'ai pas... voilà, j'ai pas... on a discuté, c'était très, 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 très dense. Très dense, et vers la fin de la conversation, je fermais les yeux, j'étais complètement... et puis, on s'est quitté, elle allait en montagne, je lui ai dit, bah, écoute, laisse-moi un texto, voilà, et je lui ai envoyé un texto lui demandant si elle était bien installée, pas de réponse. Je lui ai laissé un message, voilà, bah, écoute, j'espère que... Voilà, pas de réponse.
Ça doit être compliqué pour une femme de trouver sa place là, pour l'instant dans tout ça.
Ben, le truc, c'est que je l'ai vu qu'une fois, donc je pense pas qu'en une fois j'ai vous parlez en général.
Ouais, vous savez, il y a pas besoin forcément d'avoir des mots. Vous devez probablement dégager quelque chose.
Ouais. Sans doute.
Qui peut-être lui fait comprendre que c'est compliqué pour l'instant. Que
certaines
choses ne sont pas résolues et que.
Ouais. Alors, d'autant plus que c'est vrai que cette femme, ça n'a rien à voir, parce qu'il y a des gens qui font du yoga, qui fait un professeur de yoga, et elle m'a dit des trucs, je pense que c'est pas de l'ordre de la voyance, mais elle est très, 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 très intuitive.
Elle est sensible à l'énergie que vous dégagez, probablement.
Oui, oui. Mais et si vous voulez, j'ai pas eu l'impression que... Bon, elle a fait des sourires, on a rigolé, on a le droit, quand on est un homme, de pas... moi, je savais pas si c'était amical ou pas, donc même intérieurement, je me suis pas senti gêné. Alors, parfois, je me sens très, très, très gêné, notamment quand je plais à une femme, quoi, quand une femme est attirée par moi. Je me sens, mais alors, d'une timidité, voilà. Donc, j'ai bien compris. Donc, EMDR, et peut-être massage aussi, des massages.
Oui, on ne travaille pas sur un traumatisme avec des massages, hein, François.
Oui, mais ça, le toucher, voilà, d'être rassuré, conserver un peu sa sécurité affective par le toucher, peut-être ça peut... Voilà.
Dans un second temps, peut-être, mais je pense qu'il y a vraiment d'abord un... quelque chose à percer. Comme vous dites, j'ai enfoui tout ça et ça me va. Non, la preuve que non, c'est en train de remonter par différentes manières, par différents chemins. Donc non.
Ouais. Il y a l'attachement qui est très fort. Je sais, l'attachement. Mais vous voyez, là, déjà, là, par rapport à cette femme, je me sens beaucoup plus dégagée. Je me sens...
L'attachement, vous parlez de l'attachement à cette maman ?
L'attachement en général et plus particulièrement par rapport aux femmes.
Comment est-ce que vous envisagez son départ, puisqu'on vous a annoncé que c'était inéluctable?
Alors, moi, je pense qu'il faut vraiment que je sois très présent. Ce que je l'ai dit à mon psy, ça dépasse la psychologie freudienne du complexe d'Oedipe, tout ça, c'est plus de l'ordre, on est dans l'ordre du spirituel. Et quelle qu'elle ait été, j'ai en moi j'ai en moi cette... Cool, j'espère...
Être au-dessus de ça, c'est ça l'idée.
Ouais.
Mais alors on en revient, et on va terminer tranquillement avec ça, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, je crois que chez vous il y a vraiment plusieurs parties, et qu'il faut s'occuper de toutes les parties. Il y a celle qui dit effectivement, j'ai besoin d'être spirituellement au-delà de ça, d'être dans le pardon quelque part, dans un accompagnement.
Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait.
Donc il y a ensuite la partie intellectuelle qui est dans l'hyper analyse.
L'hypervigilance, ouais.
Et puis il y a une petite partie émotionnelle qui est là en boule, assise quelque part, et qui dit quand est-ce qu'on s'occupe de moi.
Ouais. Et
l'équilibre, vous le retrouvez quand toutes les parties sont bien au même niveau. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dans l'accompagnement spirituel, et c'est très bien si c'est votre sentiment et votre choix, c'est ce que votre cœur vous dicte. L'analyse intellectuelle, je crois que vous l'avez largement faite.
Ouais.
Mais le travail émotionnel, il n'est pas encore fait.
Oui.
Et le travail émotionnel, c'est pas des explications non plus finir, c'est pas des analyses, c'est pas tout ça.
Oui, tout à fait.
C'est comprendre qu'il y a un petit garçon qui a subi quelque chose de pas normal.
Ouais.
Et que ce petit garçon, ça lui a laissé des empreintes qui ont marqué toute sa vie.
Ouais.
Et qu'il a le droit de pleurer, qu'il a le droit de dire que c'est pas juste. Qu'il a le droit d'exprimer cette souffrance-là, parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, vous le savez très bien. Et quand vous l'aurez exprimé, petit à petit, le traumatisme va commencer à s'atténuer.
Ouais.
Et c'est cette réconciliation entre les trois parties qui vous amènera vers un apaisement, vers quelque chose de plus constructif aussi.
Ouais.
Parce que vous ne pouvez pas continuer à ignorer cette partie-là de vous.
Non.
Parce que plus vous allez l'ignorer, plus elle va vous appeler au secours.
Oui.
Et je crois que là, vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez faire intellectuellement.
Oui, tout à fait.
Dans une analyse très, très poussée, seule ou avec quelqu'un, dans une explication, dans un décortiquage de plein de choses. Et tant mieux.
Oui.
C'est intéressant jusqu'à un certain point, mais ça ne suffit pas. Et vous commencez à le ressentir là aujourd'hui.
Alors, bah oui, je le ressens depuis longtemps. Hein. C'est parfois... je crois que c'est Caroline Dublanche qui disait parfois, quand on sait les choses, on se sent d'autant plus impuissant parce qu'on les explique et ça change strictement rien. Et
si on reste sur la partie intellectuelle uniquement, effectivement, c'est un peu le so what, qu'est-ce que j'en fais maintenant, quoi.
Ouais.
Alors peut-être.
Donc il faut.
Peut-être est-il temps, d'abord, je ne sais pas quelle est l'urgence. De s'occuper de cet accompagnement spirituel et d'amener votre maman vers la suite. Et quand ce sera fait...
C'est-à-dire...
Oui.
C'est-à-dire que là, il y a le Covid, mais ça n'empêche pas d'aller rechercher... peut-être reprendre des thérapeutes en hypnose ou des femmes avec qui je m'étais bien entendu et de leur... Voilà, ça n'empêche pas. Mais là, de toute façon, l'urgence, elle est, enfin, l'ordination des choses, elle est circonstanciée. C'est-à-dire que là, ma mère va partir, donc j'ai pas le choix. Il faut que je... Voilà, c'est... Mais déjà, là, je suis un peu... Je pense que... Voilà.
Vous finissez vos phrases quelquefois, François.
Non, mais oui, pardon. Non, mais déjà, là, j'ai l'impression d'avoir eu une petite poche d'air, quoi. Voilà.
Bon, bah, tant mieux. J'espère que cet éclairage vous aidera un petit peu à avancer.
Et bienveillante. Ouais.
Et à comprendre qu'il y a une partie de vous qui a besoin de votre aide encore. Je vous laisse, François, le temps passe vite, l'émission se termine.
Oui, tout à fait. Très bien.
Prenez soin de vous et de toutes les parties de vous, s'il vous plaît.
D'accord, il n'y a pas de souci.
Je vous embrasse.
Je vous remercie beaucoup. Merci, moi aussi. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir, François. Et oui, c'est déjà la fin de notre émission. Merci à tous d'avoir été là de chaque côté du poste. Je vous retrouve avec grand plaisir demain soir à partir de 22h30. D'ici là, passez une bonne nuit, passez une bonne journée demain et à demain soir.